Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8 et on est avec Lucile Prin, la réalisatrice du court-métrage Les Cimes, donc bonjour.
Bonjour.
Alors Lucile, est-ce que tu peux commencer peut-être d'abord un peu par te présenter et aussi nous dire de quoi parle ton film, tout simplement?
Oui, alors me présenter les films que j'ai fait avant ce film et tout.
Oui, tu peux aussi.
Que dire de moi. Oui. Ok, bah, c'est mon... Donc, j'ai co-réalisé plusieurs films avant ce film-là avec Anaïs Lebert. Et là, Les Cimes, c'est mon premier film solo que je fais avec SMAC Productions, donc, qui est mon collectif depuis 12 ans, qui est devenu une boîte de production et donc qui a produit tous mes films, dont celui-là. Et Les Cimes, c'est l'histoire de deux agents de maintenance sur des antennes relais en haute montagne. C'est le dernier jour de Marius, un des deux collègues, et Lorna lui en veut de partir et va tout faire pour que ce dernier jour dure. La tempête arrive, la journée va pas se passer comme prévu.
Et donc, toi, comment elle t'est venue, cette idée des Cimes ?
À l'origine, c'était vraiment une envie formelle de tourner dans la neige et d'explorer un peu la forme d'un huis clos dans un cocon, d'un petit véhicule qui éclate dans le grand blanc avec deux personnages, l'envie d'un dispositif assez simple. Donc voilà, c'était vraiment une envie de forme, de contraste intérieur-extérieur, cocon qui éclate, rapport entre deux collègues qui ont du mal à communiquer, tout en travaillant sur des antennes de télécommunications. Et puis voilà, petit à petit, en cherchant des travailleurs de haute montagne, je me suis dirigée vers les agents de maintenance sur les antennes relais, qui sont des métiers assez inconnus et assez étonnants, dans lesquels... les gens se mettent facilement en danger, surtout en hiver. J'ai entendu plusieurs histoires assez dures d'agents qui bossent là-haut. Moi, j'ai de la famille qui bosse en montagne, donc je pense aussi que j'avais un appel de la montagne. J'avais très envie de filmer la montagne et le blanc.
Ouais.
Le blanc, la brume et la neige, quoi.
Donc tu parles de cet appel de la montagne et... T'as un peu anticipé ma prochaine question, je vais te demander pourquoi le choix de ce territoire et toi, est-ce que t'as un lien particulier avec ce territoire de la montagne ?
Alors moi, j'y ai jamais vécu ni grandi, mais j'y suis souvent allée, étant donné que plusieurs membres de ma famille y travaillent, comme guide ou comme dans les remontées mécaniques. Je sais pas, c'est vraiment la montagne. C'est... Alors moi, c'est les Alpes, mais ce film-là, on l'a tourné dans les Pyrénées, parce qu'on a eu la région Nouvelle-Aquitaine, et qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a une partie des Pyrénées. Donc on a tourné dans l'endroit le plus haut des Pyrénées. Mais après, au montage, on a un peu triché, c'est-à-dire qu'on a rajouté quelques massifs des Alpes, donc ça devient un peu un massif inventé, bien que l'essentiel du film se passe dans les Pyrénées, mais... Il y a un peu des deux, donc j'ai quand même un peu mis de mes montagnes, entre guillemets, enfin celles que moi je connais et que j'ai l'habitude d'arpenter dans ce film-là, tout en... Mais les Pyrénées, c'était une montagne que je connaissais pas du tout et c'était une très belle découverte. On a tourné dans une station... Pardon, je développe
oui,
pas
oui,
du tout la réponse
à ta
question.
Il n'y a pas de problème, vas-y.
On a tourné dans une station de ski de fond, toute petite, qui s'appelle la station d'Issarbe, assez sauvage, et c'était assez génial de pouvoir tourner là-bas parce qu'on avait et le paysage sauvage, vide, personne pour nous embêter, et un bâtiment en dur pour quand même protéger l'équipe du froid un minimum parce que ouais, les conditions étaient un peu rudes.
Et donc, tu dis que tu as aussi ajouté des montagnes des Alpes. Tu es allé dans quel massif, du coup, les Alpes ?
Le massif de la Vanoise. Les Alpes, voilà.
Trop beau. Bon choix. Et donc... Tu mets en valeur le métier d'agent de maintenance en haute montagne dans ce film. Pourquoi le choix de ce métier ? C'est parce que avant t'as dit qu'il était un peu méconnu.
Oui, c'était vraiment l'envie d'avoir un rapport de binôme de travailleurs à la montagne, de binôme de techniciens, mais dans un rapport où la survie de l'un dépend de l'autre, quoi, dans un métier super dangereux où ta vie dépend de ton collègue, et ce qui crée un rapport entre collègues assez particulier, et ce qui fait aussi que le personnage de Lorna va mal vivre le départ de Marius. C'est pas n'importe quel collègue, c'est un collègue dont ta vie dépend.
C'est finalement c'est davantage un coéquipier qu'un collègue.
Oui, tout à fait.
Donc c'est un film qui se passe entièrement en montagne et toujours dans... Enfin, qui est très blanc, hein. Je veux dire, on voit pas d'autres paysages que la montagne en hiver. Toi, quelle image tu voulais donner de cette montagne ?
Bonne question. Bah, un peu les deux. Enfin, son côté à la fois, toute l'ambivalence de la montagne, son côté à la fois hyper doux, magique. Ce qu'on voit au début du film, quand on au soleil avec les petites envolées de brume en haut des cimes et tout, et puis son dark side, son penchant dangereux qui emporte des vies aussi. Enfin, voilà, avoir un peu ces deux aspects qui en écho dans le film.
Ouais, donc montrer le côté un peu ambivalent de ce territoire. Et tout de suite, je vous laisse sur une pause musicale avec la musique « À l'aube » de Feu Chatterton.
Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti. 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste. Sur les plages asiatiques, où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit, où l'on se lève à l'aube. Et si nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti. Qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis, ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courrier. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Dans nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier, on a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Avant son départ, il était déjà moins bavard que lorsque je l'ai connu, 8 ans plus tôt. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de vieux démons. Les siens lui parlaient, je crois, de filiation et d'arbres généalogiques. À celui-là aussi, on coupe les branches qui font ombrage et les feuilles meurent à l'automne. Alors, j'ai compris ses silences et je les partageais. Je me suis aussi dit que j'étais moi-même sans doute moins fougueux, moins dispendieux qu'en notre prime adolescence. Lors, on découvrait comme tout le monde le péril de toute véritable entreprise de séduction et la saveur des lèvres maladroites et conquises. On apprenait aussi par cœur les mystères âpres et charnus du con féminin qu'on touche d'abord avec les doigts. Et surtout, surtout, l'insolent et naïf sentiment de liberté, les poumons amples, quand on prend la route du voyage pour la première fois. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube.
Toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter la musique À l'aube de Feu Chatterton. Et donc on est toujours avec Lucille Prin, réalisatrice du court-métrage Les Cimes. Ton film, il joue pas mal sur une montée en tension progressive, comme dans la musique d'ailleurs de Feu Chatterton, c'est pour ça que je l'ai mise. Toi, quelle atmosphère tu voulais faire transparaître?
Quelle atmosphère, ambiance générale?
Ouais.
Ouais. C'est une bonne question. C'est marrant parce qu'à l'origine, ce que j'avais pensé n'est pas forcément ce que c'est devenu, l'atmosphère du film. Mais j'avais pensé un truc assez planant, assez fantomatique, assez... bizarre, enfin un truc un peu voilà plutôt planant, puis c'est devenu de plus en plus presque un thriller, enfin c'est l'atmosphère s'est tendue au fur et à mesure qu'on montait le film. Le film était beaucoup plus léger avant, et on a vraiment créé une toute autre atmosphère au montage qui était pas celle qui était prévue. Le film a pris vraiment une tournure très différente, voilà.
Donc finalement, pas imprévu, mais,
ouais, bah
mais c'est intéressant
d'avoir... vraiment une écriture au montage, quoi. Et je pense que sur aucun film autant que celui-là, le film s'est réécrit intégralement au montage avec des scènes qu'on a carrément réinventées avec le monteur Julien Soudet.
C'est au moment quand tu as fait le montage que tu as réalisé que tu voulais lui donner une autre tournure et que finalement c'était moins bien celle que tu avais imaginée à l'origine?
Oui. Oui, voilà. En fait, j'ai d'abord essayé de monter le film que j'avais écrit, et puis je trouvais qu'il fonctionnait pas parce que voilà, avec tous les aléas du tournage, j'ai pas eu tout ce que je cherchais, et il a fallu être inventif, trouver autre chose. On a longtemps cherché, on a fini par trouver ça.
Et donc les personnages principaux de ce film, ce sont Marius et Lorna. Je voulais te demander, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Quelle image tu voulais leur donner?
Je pense que c'est vraiment leur amitié qui, enfin, c'est à travers ça que je les dessine, et c'est ça qui m'appelle chez eux. C'est une espèce de rapport d'amitié qui un peu bourru, un peu taiseuse, qui dit rien mais qui est en fait très très forte, des amitiés très pudiques, quoi.
Et Lorna et Marius, c'est une femme et un homme. Est-ce que c'était un choix pour toi d'intégrer une femme dans un métier qui peut plutôt être perçu comme masculin, avec des conditions de travail qui sont assez rudes, quoi, enfin.
Oui, bien sûr. Je pense que, effectivement, c'est un métier qui est majoritairement fait par des hommes. Hein. Je ne vais pas mentir, mais je crois que tout n'est qu'histoire de représentation, et que si on ne représente pas de femmes qui font ces métiers-là, elles n'en font jamais. Enfin, elles en font rarement. Donc oui, ça compte. Et bien sûr, il y en a. Et bien sûr, il y avait de ça. Il y avait bien sûr l'envie que ce soit... une femme est même le personnage le plus casse-cou des deux, c'est elle. Et puis un rapport d'amitié homme-femme aussi, sans ambiguïté aucune, m'intéresse aussi.
Ouais, bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. T'as parlé du côté casse-cou de Lorna. Et c'est exactement ça, c'est elle souvent qui prend les initiatives, qui dit pas. J'y vais quand même, enfin, sans trop en dire. Et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ce film? Est-ce que tu t'es appuyé sur des références cinématographiques ou alors un genre cinématographique spécifique?
Oui, je pense qu'il y a un peu, il y a un peu d'inspiration de film. En fait, il y a quelque chose d'assez même documentaire, de film plus contemplatif, de thriller. Par exemple, Fargo faisait partie de mes inspirations, pour La Neige aussi, pour Le Blanc, pour ces personnages aussi qui... des rapports de collègues très forts aussi. Et puis Les Cimes était presque un film drôle à l'origine. Alors, tout a disparu, toute part de légèreté et d'humour a disparu pour resserrer sur ce thriller. Voilà.
Ah oui, donc à l'origine, c'était plutôt un film un peu léger, rigolo.
Alors, rigolo, j'exagère, mais j'avais envie de quelque chose un peu... Bah, c'est ce truc que j'aimais beaucoup dans Fargo, c'est à la fois drôle et noir, quoi. Cette espèce de mix entre noirceur et humour qui me plaisait beaucoup. Mais voilà, je te dis ça, c'est plus là. Donc, c'est dur de parler de référence maintenant que le film n'y ressemble pas du tout. Maintenant, on est quand même plus sur un film... Pas vraiment noir parce qu'il est blanc, mais pas fun en tout cas.
Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que tu as changé du tout au tout la perception de ton film. Et donc, on va faire une deuxième petite pause musicale.
Vuela, 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 vuela con nosotros.
Toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter la musique, excusez-moi pour la prononciation, Quattro Vientos de Danit, donc qui montre justement la liberté et l'immensité de la montagne, ce qui donne un caractère fascinant de ce territoire. Et donc on est toujours avec Lucille, réalisatrice du court-métrage Les Cimes, qui se passe justement dans ce territoire de la montagne. Et donc il y a beaucoup de brume et de brouillard dans ton film, ça joue d'ailleurs un rôle clé. Donc je voulais te demander, question purement technique, mais comment vous avez fait pour concilier le tournage avec les conditions météo ?
On a cherché la brume, on a cherché les intempéries, on a été exprès dans un endroit où on nous a dit « vous êtes sûr d'avoir de la brume, au moins la moitié de la semaine, il fait tout le temps moche là-haut ». En hiver, en tout cas mi-janvier, c'était à peu près sûr qu'on ait ça, donc on est allé chercher ça. Et on a eu vraiment beaucoup de brume. On a même eu une tempête de neige un jour dont on a bien profité. Et le tournage s'est adapté à ça aussi, parce que moi j'avais pensé à un film, enfin toute la deuxième moitié du film qui se passe intégralement dans la brume. Et en fait, c'est devenu une tempête parce qu'on a eu une tempête. Et du coup, on en a rajouté après avec les effets spéciaux pour que cette tempête dure sur toute la scène. De perdition dehors.
Mais donc, quel défi vous avez rencontré pendant ce tournage ? Parce que je suppose que c'est pas facile de tourner en altitude déjà de 1, et en altitude par tempête et mauvais temps.
Ouais, ça c'est clair. Alors, un défi que j'avais pas prévu, c'était la difficulté de monter là-haut avec les véhicules de tournage. Parce qu'en fait, il neigeait presque tous les jours et la déneigeuse passait pas avant 10h. Donc nous, le matin à 8h, on pouvait pas monter, on devait attendre qu'elle arrive. Ensuite, les véhicules, on perdait des chaînes, donc on perdait énormément d'heures de tournage par jour à cause de ça, à cause surtout du fait qu'on puisse pas arriver sur le décor. Et puis après, la nuit tombait très vite, tombait à 17h. Donc il nous restait peut-être 5 heures utiles par jour, ce qui était très peu. Après, étonnamment, la tempête, par exemple, ça a été dur pour l'équipe, pour toute l'équipe, parce qu'il faisait super froid et qu'on était fouettés par le vent et tout, mais on avait un abri à côté, pour moi, alors je pense que l'équipe dirait pas la même chose que moi, mais pour moi, c'était pas la partie la plus difficile. Parce qu'en fait, on était pris dans un truc qui était vraiment là, donc on avait qu'à en profiter, les acteurs n'avaient qu'à jouer avec ce qui était là, et c'était là. C'est plus facile de jouer avec ce qui est là que de devoir faire semblant qu'on est pris dans une tempête. Voilà, donc c'était plutôt chouette, ça.
Ouais, c'est très marrant. J'imagine la scène, je me dis waouh.
Mais on a eu très froid quand même, ça c'est vrai. On avait des petites chaufferettes pour survivre.
Mais finalement, c'est ça qui fait l'ambiance du film aussi. Et les acteurs, est-ce qu'ils ont dû se préparer parce que ils ont quand même grimpé pas mal sur des antennes relais, tout ça.
Alors, non, ils n'ont pas eu besoin de se préparer parce que ils montent pas vraiment sur une antenne, en fait. C'est que de la triche. On n'a pas pu monter sur une vraie antenne. C'est impossible. Donc, on avait d'abord pensé à monter sur une antenne abandonnée, parce que les antennes en fonctionnement, c'est pas possible. Enfin, faudrait les shut down, quoi, on peut pas. On a cherché une antenne abandonnée, puis ensuite, on s'est dit que c'était vraiment trop dangereux. Et finalement, on a reconstitué, le chef décorateur a construit un tronçon d'antenne de 4 mètres. Ce qui fait que l'actrice, quand elle est dessus, elle n'est pas à plus de 3 mètres du sol, quoi. Sécurisée par le machinot et tout. Donc, on n'a pas vraiment été dans des situations où il aurait fallu une formation de grimpe ou de quoi que ce soit. Après, c'est du fond vert. Moi, j'ai été filmer une antenne à côté, puis on a raccommodé les morceaux, mais c'est que de la triche, l'antenne.
C'est très bien fait. En parlant de ce tournage, quelle est la meilleure... déjà, combien de temps il a pris ? Parce que...
c'était pas si long. On a eu que 4 jours avec les deux acteurs là-haut et 5 jours en tout.
Ok, ouais. Et quelle est la meilleure anecdote ou souvenir que tu gardes de ce tournage ?
Je crois que c'est... je sais pas si c'est une super anecdote, mais en tout cas, c'est un moment assez fort avec l'équipe. C'est quand la brume s'est enfin dissipée, parce qu'on a commencé le tournage dans la brume. Elle était là pendant 4 jours. Et en fait, pendant les 4 premiers jours de tournage, l'équipe n'avait jamais vu le paysage. Moi, oui, parce que j'avais fait les repérages avec la chef opératrice et les producteurs. Mais toute l'équipe... commençait un peu à monter en angoisse, quoi. Ça faisait 4 jours qu'on était là-haut sans rien voir, sans avoir une idée de l'altitude, du vertige, de où sont les reliefs. Et le moment où ça s'est dissipé, quand on est arrivé le 5e jour au matin et qu'on a vu où on était, c'était une émotion très forte, en fait, une espèce de soulagement de waouh, wow, déjà c'est magnifique.
Et puis, ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça où on est depuis 4 jours.
Ok, Et toi, quel message tu voudrais que les spectateurs y retiennent de ce film ?
Oh, c'est dur parce que je voudrais pas leur imposer. non, ouais, je trouve ça dur de... Bah, peut-être pas un message, mais en tout cas, une sensation de ce que c'est que d'user de corps déjà abîmés par des décennies de travail dans des conditions comme ça, enfin de... Parce que ça, c'est des agents de maintenance, ça aurait pu être des femmes de ménage. C'est, en fait, c'est tous ces métiers physiques qu'on fait toute notre vie jusqu'à 64 ans maintenant. C'est en fait rien à voir avec des métiers qu'on fait dans des bureaux bien au chaud et incomparables en termes d'usure des corps. Voilà, enfin moi c'était ça en tout cas qui me tenait un peu derrière cette envie formelle, c'était de voir des corps qui n'en peuvent plus, bien qu'ils adorent leur métier, qui n'en peuvent plus et qui ne peuvent pas le faire jusqu'au bout.
Ouais, montrer des métiers épuisants et... Bah, ça transparaît bien dans ton film parce qu'on voit bien des personnages qui sont fatigués, éprouvés, et même bah, le fait qu'il part bientôt à la retraite, enfin que c'est son dernier jour, ça ajoute quelque chose. Et donc toi, donc c'est un court-métrage, qu'est-ce que tu dirais que le court-métrage apporte par rapport au long-métrage ? Pourquoi avoir fait un court-métrage et pas un long-métrage aussi peut-être ?
Je pense que ça apporte l'expérimentation. Bah, là, c'était une envie. Ouais, c'était une envie formelle, et je pense que c'est vraiment le fait de le faire en court métrage qui m'a permis de m'amuser à chercher cette forme un peu bizarre, un peu étonnante. Enfin, étonnante, je sais pas. Mais en tout cas, qui fonctionnerait probablement pas dans un long métrage parce que c'est vraiment. Après, moi je trouve ça presque plus dur d'écrire un court-métrage parce qu'on n'a pas le temps de raconter une histoire, on n'a pas le temps de créer un vrai rapport émotionnel au personnage. Je trouve que c'est en fait, pour moi personnellement, c'est la forme la plus difficile à écrire. En fait, j'ai tendance à beaucoup trop écrire et à ensuite tout supprimer au montage. C'était un film très bavard par exemple, et puis après, au montage, je me suis rendu compte, non, il n'y a pas besoin de dire tout ça, c'est juste l'ambiance suffit. En fait, moi, je ne suis pas très appelée par la forme courte. Ça, c'était chouette pour expérimenter. Et puis, de manière générale, il faut aussi passer par là. Mais là, maintenant, j'ai un peu envie de passer à des formes plus longues.
Oui, parce que c'est sûr, on ne peut pas raconter autant de choses. Et ça demande, en fait, un petit peu de prendre un angle très précis et d'explorer que ça, plutôt que de vouloir tout dire et finalement perdre le spectateur.
Exactement, on a toujours tendance à vouloir trop en dire quand on écrit un court-métrage, à mettre beaucoup trop d'intention, beaucoup trop de... Et ensuite, on en garde qu'une seule et on écrème tout.
Et donc, cette émission, elle va bientôt toucher à sa fin, mais je voulais te demander, tu disais que tu voulais plutôt explorer le long-métrage, quels sont tes futurs projets ?
J'ai un projet en co-réalisation avec Anaïs Lebert, avec qui j'ai fait tous mes précédents films, qui va être un documentaire qu'on va tourner cet été sur un groupe d'archéologues, sur un chantier préhistorique. Moi, j'ai une fiction en tout début d'écriture sur une histoire d'enquête sur la disparition d'une femme, mais qui, voilà, qu'on est encore aux prémices. Pour l'instant, je ne peux pas en dire grand-chose.
Merci beaucoup, Lucille, d'avoir pris du temps.
Merci à toi.
Et je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose.
Je peux... Ouais, non, c'est bien, je peux.
Ok, merci peux... beaucoup.
Oui. Merci à toi.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !